de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité aujourd'hui est le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Harold Avraham Weil, dont j'aimerais aujourd'hui, à travers les grandes étapes de sa vie, découvrir la personne, ses sentiments, ses doutes derrière sa fonction de rabbin. Monsieur le rabbin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'accord pour cet exercice ?
Avec plaisir, Valérie.
Alors, vous avez aujourd'hui 39 ans, vous êtes né à Schiltigheim, vous êtes enfant unique, c'est important de le dire, on va le voir dans la façon dont vous avez été élevé et vous étiez dans une famille pratiquante. Pour commencer, quel est votre lien aujourd'hui avec la culture alsacienne ? Puisqu'en fait, on sait que vous avez exercé un moment à Toulouse, on y reviendra tout à l'heure, mais vous êtes né ici à Schiltigheim, vous êtes un Alsacien. Bah oui, Weil, en même temps, ça s'entend un petit peu.
Voilà, Alsacien et très fier de l'être. Alors, en réalité, j'ai une double culture, puisque si mon père est Alsacien, et si nous le sommes depuis un certain nombre de générations, ma maman est née en Algérie, c'est une juive pied-noir, et donc je suis le fruit d'un beau mélange entre le monde ashkénaze et le monde séfarade, mais étant né à Strasbourg, ayant grandi dans cette belle ville de Strasbourg, eh bien, je suis totalement imprégné de la culture alsacienne. J'ai fréquenté toute mon enfance la synagogue de Bischheim, qui était la synagogue que fréquentaient déjà mon père et son propre père, même si du côté paternel, ma famille est originaire de Mackenheim. Mais après-guerre, mes grands-parents sont revenus s'installer à Schiltigheim. Ils ont fréquenté assidûment la synagogue de Bischheim. Et j'ai donc vraiment grandi avec cette ambiance judéo-alsacienne, cette tradition juive de la campagne, hein, puisque Bischheim était considéré comme une communauté rurale, même si proche de Strasbourg, avec tout ce qui va autour de cette culture alsacienne, cette culture juive, aussi bien au niveau, bien sûr, culinaire qu'au niveau des airs, au niveau des traditions.
Et l'apport séfarade de votre maman ?
Alors, un apport très très fort, puisque même si mes grands-parents n'habitaient pas à Strasbourg, mes grands-parents habitaient à Amiens. Lorsqu'ils sont venus d'Algérie, ils ont choisi de s'installer à proximité de Paris. Mon grand-père y a trouvé un commerce et donc ils se sont installés dans cette petite ville du nord de la France, dans laquelle il y avait une toute petite communauté ashkénaze. Cette communauté ashkénaze a presque été balayée, on va dire, par l'arrivée des quelques dizaines de familles d'Afrique du Nord qui ont recréé une communauté. Je me rendais souvent à Amiens et donc, on va dire que toute cette culture séfarade, eh bien, c'est à Amiens que je l'ai reçue lorsque je rendais visite à mes grands-parents et que je me rendais dans la petite synagogue familiale d'Amiens, mais également au travers de mes très nombreux amis à Strasbourg. Donc, tout en fréquentant la synagogue de Bischheim, j'ai beaucoup fréquenté dans mon enfance la synagogue de l'Esplanade, principalement, hein, où priaient la plupart de mes amis, mais également la synagogue séfarade de Léocône. Donc, j'ai aussi eu l'occasion de m'imprégner de cette culture séfarade à Strasbourg.
C'est important, ça, d'avoir grandi ici, au milieu de vos fidèles. Ça entretient cette relation, cette proximité, presque cette familiarité.
Je pense qu'il est très important de connaître sa communauté. Je n'ai pas eu cette chance lorsque je suis arrivé à Toulouse où tout était à découvrir. J'arrivais dans une région que je ne connaissais absolument pas, des fidèles qui eux-mêmes étaient imprégnés d'une culture qui n'était pas forcément la mienne. Alors il y a ce défi, c'est parfois passionnant de partir à la découverte de ces fidèles, d'apprendre à les découvrir, d'apprendre à comprendre comment ils vivent. Mais il y a un avantage certain à connaître déjà sa communauté, surtout lorsqu'elle est de la taille de la communauté de Strasbourg. Je pense qu'on gagne beaucoup de temps à comprendre les mécanismes aussi de la communauté, une communauté qui a évolué, hein, qui n'est plus forcément la même que celle que j'ai connue lorsque j'étais enfant, mais en tout cas avec, on va dire, un certain nombre de mécanismes qui, eux, n'ont pas forcément, pas fondamentalement changé. Et donc je crois qu'il y a un avantage certain à, effectivement, à bien connaître ses fidèles.
Et vous fréquentez, on va dire, des camarades de classe qui ne sont pas forcément aujourd'hui pratiquants ou qui sont très religieux, mais vous les fréquentez, vous, en dehors de vos fonctions, donc, parce que c'était des camarades d'école. Hein.
Alors mes amis, c'est ma famille. Je n'ai pas eu la chance de grandir dans une grande famille. Alors, vous avez rappelé effectivement que je suis fils unique. Du côté de mon père, la famille est extrêmement réduite aussi, puisque mon papa est lui-même fils unique. Et du côté de ma maman, où ils étaient cinq enfants, malheureusement plus que quatre aujourd'hui, ma maman ayant perdu une sœur très jeune. Je n'ai que très peu de cousins et cousines. Et donc, finalement, la quasi-totalité de ma famille se réduit à mes amis. Bien sûr, je suis très, très attaché aujourd'hui à ce qu'il me reste de famille. Mais on va dire que mes amis font aussi intégralement partie de ma famille. Et ces amis proches, ces amis d'école, ces amis d'enfance, je continue aujourd'hui à les fréquenter tous les jours, effectivement, quelle que soit leur sensibilité religieuse. Et d'ailleurs, je ne suis pas issu d'une famille pratiquante à proprement parler. Je suis issu d'une famille tout à fait traditionnaliste dans laquelle on faisait les grandes fêtes, on faisait kiddouche. Mon père m'amenait, je dois le dire à ce micro, c'est vraiment tout à son honneur. Mon père fréquentait assidûment la synagogue de Bishheim. Il m'amenait tous les Shabbats matins à la synagogue. Lorsqu'il ne pouvait pas m'amener pour les fêtes, je dormais chez ma grand-mère qui habitait à proximité de la synagogue, et donc j'allais à la synagogue. J'ai évolué et fait toute ma scolarité à l'école Akiba, donc avec un enseignement en école juive. Le Gan Shalom, je l'ai fréquenté depuis l'âge de 2 ans jusqu'à mon entrée en CP, mais je ne suis pas issu d'une famille à proprement parler pratiquante. Et donc j'ai eu dans mes amis aussi, des amis de tout style, de toute obédience, des moins religieux aux plus religieux, et j'entretiens aujourd'hui des relations de grande proximité avec la quasi-totalité d'entre eux.
À quel moment ça s'est imposé à vous? Alors, vous avez fait une yeshiva pendant 1 an en Israël, vous êtes revenu faire l'école rabbinique à Paris. À quel moment ça s'est imposé? On va parler de vocation pour vous.
Très tardivement. Très tardivement, c'est une question qui revient souvent, et je ne pensais absolument pas faire d'études rabbiniques, ni à l'âge de 15 ans, ni même à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai quitté la terminale et que j'ai choisi de passer au moins une année à la yeshiva, à pouvoir vraiment m'imprégner de cette ambiance de l'étude talmudique intensive. Je ne pensais pas à ce moment-là m'engager dans des études rabbiniques. C'est en revenant à Strasbourg et en réfléchissant à la suite de mon avenir professionnel, que de manière d'ailleurs assez surprenante et presque paradoxale, lors d'une discussion avec mon père, qui ne voyait pas forcément son fils devenir rabbin, bien s'est dessiné, s'est esquissé même presque, cette possibilité éventuellement d'intégrer l'école rabbinique. Et je vous fais cette confidence au micro, Valérie. Je ne savais même pas qu'il existait une école rabbinique en France. C'est vraiment par l'entremise de mon père que j'ai entendu parler de cette école rabbinique à Paris, dirigée par le grand rabbin Guggenheim, qui est aujourd'hui grand rabbin de Paris, qui ne l'était pas à l'époque. Il était directeur de l'école rabbinique et également occupé des responsabilités au tribunal rabbinique de Paris. Et je ne le connaissais que de nom, en réalité. Je ne savais pas qui était le grand rabbin Guggenheim. J'étais très éloigné du milieu communautaire parisien, et donc ça a été une découverte totale pour moi.
Et vos parents, là, à ce moment-là, ils l'ont accueilli comment? Parce que, alors, c'est pas comme quand on rentre dans les ordres, hein. On sait qu'évidemment, et vous avez une famille aujourd'hui, une très grande famille. On va parler de vos nombreux enfants un petit peu plus tard dans l'interview. Comment ils l'ont accueilli, ça, vos parents, de vous engager dans ces études talmudiques, dans le but de devenir rabbin? Il n'y a pas d'autre possibilité quand on s'engage dans cette voie-là.
Non, quand on s'engage, a priori, dans des études rabbiniques, c'est effectivement pour devenir rabbin. Alors, mon père étant un petit peu à l'origine, finalement, de ces études rabbiniques, lui, il a très bien pris, forcément. C'est lui qui, comprenant mon désir de poursuivre dans cette voie-là, avait fait en quelque sorte les présentations avec le grand rabbin Guggenheim et avec l'école rabbinique. Donc lui, il a très bien pris, il m'a plutôt soutenu et accompagné dans cette voie avec toujours beaucoup de fierté, je pense. Pour ma maman, ça a été un peu plus difficile, mais j'ai des parents extraordinaires et très aimants, et peut-être malgré la déception de ma maman de ne pas voir son fils poursuivre de brillantes études de médecine.
Votre maman est médecin, on va le rappeler, voilà, juste à nos auditeurs. Oui.
Voyant que j'y trouvais ma voie et mon bonheur, elle m'a très très rapidement également soutenu et accompagné dans cette démarche.
Donc vous faites vos études rabbiniques, vous avez un premier poste à Anvers, en Belgique. Vous êtes nommé ensuite à Toulouse en 2011. Vous êtes donc en place lors de la tuerie à l'école juive Ozara Torah le 19 mars 2012. Comment est-ce que vous l'avez appris à ce moment-là?
Alors, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me lève un beau lundi matin ensoleillé, comme on en vivait presque toutes les semaines à Toulouse, Et je me rends dans la petite synagogue de Palapra qui se situe au centre de Toulouse. Donc il faut savoir qu'à Toulouse, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir à Strasbourg, les institutions ne sont pas regroupées dans un seul et même quartier. Il n'y a pas de quartier juif à proprement parler. Oui. Et donc l'école Otsara Torah se trouve un petit peu en retrait du centre communautaire et de la petite synagogue de Palapra qui est vraiment à proximité du centre communautaire toulousain. Et c'est vraiment à l'issue de l'office, alors que j'étais en train de prendre le café, comme on le faisait de manière très conviviale tous les matins avec la poignée de fidèles qui venaient prier de manière assidue, que je reçois un coup de téléphone. Ce coup de téléphone provenait de la part d'un ami proche qui enseignait à l'école Otsara Torah et qui était en charge du mouvement étudiant de Toulouse, des jeunes étudiants juifs de Toulouse. Et c'est lui qui m'appelle pour m'annoncer, en réalité quelque chose qui n'est pas très très clair à ce moment-là. Je pense qu'il est totalement terrorisé par ce qu'il vient de voir. Alors lui-même est à quelques dizaines de mètres de l'école à ce moment-là, il est en train de se rendre à l'école et il entend, je pense, les coups de feu, et donc très rapidement il est prévenu et il me délivre un message qu'à ce moment-là, eh bien, mon cerveau n'est pas capable d'intégrer. Donc les personnes qui se trouvent autour de moi, il y a encore, il me semble, de mémoire, 5-6 personnes qui se trouvent autour de moi avec leur café et leurs petits biscuits. Ils me voient véritablement me liquéfier, changer de couleur, mais mon cerveau n'intègre pas forcément cette information à ce moment-là.
On vous dit à ce moment-là qu'il y a des victimes ?
Alors j'ai un pressentiment, parce que lorsqu'il m'appelle, il est, je vous dis, 8h, 8h moins, 8h moins 2, et je n'ai pas l'habitude qu'on m'appelle aussitôt. Ça, les gens savent pertinemment que je sors à ce moment-là de l'office, et surtout lorsque les gens me connaissent, donc je suis très très surpris de recevoir un coup de téléphone de sa part à cette heure-ci, alors que je suis censé être encore à l'office, et je sais pas pourquoi j'ai le pressentiment qu'il se passe quelque chose, donc je n'intègre pas tout de suite. Bien sûr, très rapidement, après avoir repris mes esprits, je comprends tout de suite la gravité. Alors il me parle de victimes potentielles, mais je n'ai pas à ce moment-là de bilan précis, et c'est quelques minutes plus tard que je vais recevoir un appel officiel de la préfecture pour me confirmer l'information et me donner déjà un premier bilan.
Quelle est la première chose que vous avez faite à ce moment-là? Vous êtes... Non, je pense qu'il y avait un périmètre. Vous pouviez pas vous rendre à l'école?
Alors en fait, ce que je fais immédiatement, c'est de courir vers ma voiture et de rentrer chez moi, parce que je sais que ma femme doit partir à ce moment-là avec mon petit Yedidia. Je n'ai qu'un enfant à ce moment-là, et elle doit l'amener à la crèche qui se trouve non pas au Otsara Torah, mais sur l'autre site scolaire, le site scolaire du Gan Rashi, qui donc accueille la crèche, l'école maternelle et l'école primaire. Donc c'est pas du tout au même endroit, c'est à quelques kilomètres d'Otsara Torah. Et donc la première chose qui me vient à l'esprit à ce moment-là est de protéger, c'est peut-être une réaction un peu égoïste, mais c'est de protéger ma famille et surtout aussi en même temps d'appeler. C'est, je crois, la première chose que je fais, c'est prendre mon téléphone aussi pour appeler le directeur de l'autre site et lui demander de protéger l'école immédiatement. Alors je me doute qu'il a peut-être été prévenu, mais je préfère prendre les devants et lui demander de protéger l'école, parce que c'est un site qui accueille 200 enfants et qu'il faut absolument protéger ces enfants, parce que je sais que le tueur s'est enfui et qu'il peut se rendre sur ce deuxième site. Et donc je me précipite, moi, pour rentrer chez moi, avec l'espoir que ma femme ne serait pas encore partie. Et je crois qu'il y a eu un miracle ce jour-là, pour une raison dont je ne me rappelle plus exactement toutes les circonstances, mais en tout cas, ma femme n'est pas encore partie. Elle a pris du retard ce matin-là, et au moment où je rentre à la maison, elle s'apprête à partir, et je lui raconte, elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Voilà, elle me voit livide, et je lui raconte ce qui vient de se passer, et je lui demande de ne pas partir. Et moi, je ne me rends pas par la suite à Otsara Torah, tout simplement parce que je sais que je ne serai pas utile à Otsara Torah. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de monde sur place, et donc ma première réaction, on n'est pas en mesure de s'organiser parce qu'on communique un petit peu par message avec les différentes instances communautaires, mais j'ai envie de dire que c'est finalement chacun essaie de prendre ses responsabilités à ce moment-là. J'ai le réflexe, ça a été un très bon réflexe, de me rendre directement à l'hôpital de Toulouse. Parce que je sais que c'est à l'hôpital de Toulouse, à l'hôpital Rangueil, que les dépouilles des victimes vont être amenées, et que ce sera là mon rôle le plus efficace, on va dire, être auprès des familles endeuillées et également auprès du blessé, Brian Bijawi, gravement blessé entre la vie et la mort, qui vient d'être conduit à l'hôpital.
Vous connaissiez, vous, les victimes ou les proches des victimes ?
Oui, je les connaissais personnellement. Je connaissais personnellement Jonathan Sandler, qui venait d'arriver à Toulouse, hein, il faut le rappeler. Ça faisait 6 mois simplement qu'il était revenu, hein, puisqu'il avait, il y avait fait son lycée, ses études de lycée. Et il était revenu justement à Toulouse pour rendre un petit peu ce que l'école lui avait apporté. Donc ça faisait 6 mois qu'il était là, mais forcément, dans une petite communauté comme Toulouse, on se connaissait tous, surtout lorsqu'on occupait des fonctions officielles. Donc bien sûr, je connaissais très bien Jonathan. Je connaissais bien évidemment ses enfants. Et je connaissais bien sûr la petite Myriam Monsonego, qui est la première personne qui nous a accueillis lorsqu'on est arrivé à Toulouse avec ma femme, passer notre premier Shabbat d'essai. On avait passé un très beau Shabbat le vendredi soir à Otsara Torah. Et voilà, la première petite fille qui était venue nous accueillir, c'était la petite Myriam.
De quelle façon, jusqu'au moment où l'assassin, j'ai pas envie de donner son nom à cette personne, a été appréhendé, a été tué par la police. De quelle façon, ça a duré quelques jours quand même, il y a eu des heures interminables. Comment est-ce que vous avez vécu votre quotidien? Alors on l'a compris, proche des victimes, des familles des victimes. Mais comment est-ce que vous avez réconforté l'ensemble de la communauté? Je pense que tout le monde était devenu une cible potentielle. On ne savait pas si effectivement cet assassin avait des complices ou non. Dans quel état d'esprit on est pendant ces heures, ces longues heures, ces jours, hein?
Valérie, le monde s'arrête. Quand je vous dis le monde s'arrête. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. Je pense que je n'ai pas dormi, et voilà, ce n'est pas une figure de style, je n'ai pas dormi pendant 72 heures ou plus, pendant 4 jours, même il ne me semble pas avoir dormi. Je pense que c'est vraiment les limites de ce qu'un être humain peut supporter. Et à 28 ans, bien sûr, j'avais même pas 29 ans encore, j'étais à un mois ou deux mois de mon anniversaire de 29 ans, avoir une telle épreuve à gérer, une telle situation, bien sûr, c'est compliqué, c'est difficile, mais vous ne réfléchissez pas à ce moment-là. Il y a un travail à faire, vous devez être à la hauteur, et voilà, on se dit qu'on aura le temps de récupérer un petit peu plus tard, et donc on agit un petit peu à l'instinct. Et c'est ce que j'ai essayé de faire le mieux possible, d'entourer ces familles, mais également d'entourer toute la communauté, parce que la communauté avait besoin de réponses, elle avait besoin de ne pas s'écrouler, de ne pas s'effondrer, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'étais pas seul, c'est ce que j'ai essayé de faire, entouré par le conseil d'administration de la CIT, donc qui est l'équivalent du CIBR, et avec l'ensemble d'ailleurs des acteurs communautaires toulousains, hein, bien en dehors même de la communauté. Nous avons essayé finalement d'insuffler encore cet espoir, avec bien sûr le sentiment aussi de peur, toutes les questions qui nous tiraillaient également, parce que nous n'étions pas épargnés, mais j'ai envie de dire que nous avons vraiment à ce moment-là agi à l'instinct. Et donc ces heures-là, eh bien, on les a vécues au fur et à mesure qu'elles s'écoulaient. Il y avait beaucoup de choses à faire déjà. On n'avait pas le temps de tergiverser en réalité, parce qu'il fallait s'occuper de beaucoup de choses. Il fallait organiser les obsèques. Il fallait gérer les très nombreux journalistes. Il fallait gérer, bien sûr, l'hospitalisation du blessé. Enfin, il y avait tout un tas de choses à faire, tout un tas de démarches à faire. Qui ont fait que tout simplement on n'avait pas le temps de tergiverser, pas le temps de réfléchir. Et la manière dont les policiers ont géré par la suite je cherche mes mots, parce que j'ai aussi beaucoup de mal à reparler de ces moments, il y a beaucoup d'émotions, ouais. Voilà, mais la manière dont la suite des opérations a été menée par la police, et bien tout cela, nous l'avons appris au sortir, il me semble, de l'avion qui nous menait en Israël pour les obsèques. Nous avions eu, juste avant de monter dans l'avion, un entretien privé déjà avec Nicolas Sarkozy, qui nous avait affirmé que les choses étaient en bonne voie et qui nous avait délivré déjà certaines informations qui n'étaient pas encore publiques à ce moment-là.
Pour vous, il y a un avant et après cette tuerie de Toulouse?
Voilà, clairement.
Pour vous, personnellement?
Tout à fait. Il y a un avant, il y a un après. Mais encore une fois, je n'en joue pas. Je pense que ça serait extrêmement déplacé à la fois vis-à-vis des victimes. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus souffert que moi dans cette histoire. Je pense tout le temps à ce qu'a vécu la famille Monsonego. Je pense tout le temps à ce qu'a vécu la famille Sandler, à ce qu'a vécu Eva Sandler. Je ne peux pas oublier pas simplement la dignité, mais la force de caractère d'Eva lorsqu'elle m'a appelé quelques instants après avoir été témoin de l'assassinat de son mari et de ses deux enfants. Cette femme était debout, cette femme se posait des questions extrêmement pragmatiques et c'est presque elle qui m'a réconforté. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas oublier l'attitude extrêmement digne de Samuel Sandler lorsqu'il est arrivé à l'hôpital. Ses familles ont beaucoup plus souffert que moi. Il y a des familles qui n'ont pas été victimes directement de l'attentat, mais dont les enfants ont été témoins de la scène et ont vécu des choses terribles, ce qui a occasionné, on peut l'imaginer, après de grands troubles psychologiques. Voilà, ça a été indirectement, on va dire, mon cas, bien sûr, extrêmement marqué par tout ce que j'ai vu, par tout ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont vécu des choses bien plus terribles. Et pour autant, bien sûr, il y a un avant, un après, on ne voit plus les choses de la même manière.
Alors, on a évidemment, on va laisser à Toulouse l'innommable et de ce qui a pu se passer. Est-ce que c'est quelque chose que vous portez encore toujours aujourd'hui, même ici à Strasbourg, sur ce qui pourrait se passer ?
Alors, pas nécessairement sur ce qui pourrait se passer. Il y a eu un avant Toulouse, il y a un après Toulouse. Je n'aimerais pas non plus, et ça, j'y ai beaucoup travaillé durant les années qui ont suivi à Toulouse, à ce que Toulouse, la communauté de Toulouse, ne soit pas réduite à cet attentat. La communauté de Toulouse a beaucoup de mérite. C'est une communauté qui a toujours essayé de se battre pour faire émerger un judaïsme convivial, chaleureux, pour mettre en place des structures communautaires, pour faire en sorte que tous les juifs de Toulouse puissent être accompagnés de la naissance jusqu'à leur dernier voyage dans les meilleures conditions. Il y a des écoles qui se sont créées, il y a des commerces cachers qui se sont créés, il y a des instances communautaires qui se sont développées, des synagogues qui ont ouvert. Et même si la vie n'a rien à voir, la vie juive n'a rien à voir avec ce qu'elle est à Strasbourg, ce sont deux histoires, ce sont deux cultures. Pour autant, Toulouse a beaucoup de mérite. La communauté de Toulouse a eu beaucoup de mérite de survivre à cet attentat, de ne pas s'effondrer. Et donc, je n'aimerais pas qu'elle soit réduite à cet attentat parce que je ne pense pas que ce soit à son honneur. Toulouse n'a rien demandé. Cet assassin, qui est une bête immonde, est arrivé à Toulouse. C'est comme ça. Mais Toulouse, bien sûr, n'a pas demandé à vivre ce moment. Et je pense que ça serait lui faire offense que de la réduire à cet attentat. Toulouse a beaucoup d'atouts. Par ailleurs, je dois dire qu'effectivement, cet événement est un événement qui continue à m'accompagner, y compris dans ma vie strasbourgeoise, mais pas forcément en termes de peur de ce qui pourrait se passer. Et d'ailleurs, Valérie, je ne peux pas dire que j'ai continué, suite à cet attentat, à vivre dans la peur à Toulouse. J'ai été très marqué, bien sûr, par ce qui s'est passé. Ça a changé ma manière de voir les choses, de voir le monde, de vivre mon rapport à la communauté, sans doute. Mais ça n'a pas... même s'il y a eu bien sûr un traumatisme pendant les mois qui ont suivi, qui était lié à l'attentat, la peur des scooters, etc. Mais ce sont des choses qui finissent par s'estomper. Et je n'ai pas vécu par la suite dans la peur de l'attentat ou de représailles. Et lorsqu'on arrive dans une communauté aussi paisible et aussi sereine que celle de Strasbourg, ce sont des choses qui disparaissent totalement.
Paisible et serein, vous avez agrandi votre famille ici à Strasbourg. Combien d'enfants ?
5 garçons.
5 garçons. Vous attendez l'affiche, je suppose.
Avec l'aide de Dieu.
5 garçons, vous les élevez forcément dans la voie du judaïsme. Vous avez déjà posé la question d'un enfant qui aimerait aller vers ailleurs, qui aimerait tester une autre spiritualité ?
Écoutez Valérie, si vous regardez statistiquement ce que vont faire les enfants de rabbins,
j'imagine. Alors,
si on peut s'intéresser juste aux rabbins français ou prendre de manière plus large les rabbins européens, voire même les rabbins en Israël où il y en a encore plus, ou aux États-Unis, je pense que vous aurez du mal à en trouver ne serait-ce que 10 ou 20% qui continuent eux-mêmes à s'engager dans une voie rabbinique. Alors pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ont tout simplement pâti peut-être du manque de disponibilité de leur papa ou même de leurs parents, parce que souvent un rabbin c'est un couple rabbinique, donc même si la femme n'est pas directement concernée par la fonction rabbinique, forcément elle a toujours un rôle à jouer dans la communauté, donc ça peut créer parfois un certain... on essaye bien sûr d'être très présent auprès des enfants, mais c'est sûr que étant parmont et parvot, c'est parfois difficile d'accorder de la disponibilité, donc je pense que certains n'ont pas envie de reproduire le même schéma, et tout simplement parce qu'il y a plein de manières de continuer à vivre un judaïsme authentique, épanoui, en faisant autre chose. On peut tout à fait avoir un un métier, continuer à étudier, continuer à avoir une vie engagée. Alors là, bien sûr, j'envisage l'hypothèse, parce que c'est ce que je souhaite pour mes enfants, qu'ils puissent continuer à s'épanouir dans un judaïsme authentique tout en faisant autre chose. Et maintenant, si un des enfants devait choisir une autre voie, je pense qu'il est du devoir de toute façon d'un parent de toujours accompagner ses enfants et de toujours continuer à les aimer. Mais voilà, on ne sait jamais après comment est-ce qu'on réagit face à certaines situations.
Monsieur le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Harold Avraham Weil, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On en connaît un petit peu plus maintenant sur vous, sur la personne derrière la fonction que vous exercez ici au sein du consistoire israélite de Strasbourg et du Bas-Rhin. Merci à vous.
Merci.
L'invité de la rédaction.